Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. « Quand la science explore l'histoire » est un ouvrage de vulgarisation consacré à la rencontre entre l'enquête historique, la médecine légale et l'anthropologie. Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue et anthropologue, y est associé à David Alliot. Le livre parcourt une vaste période, de la préhistoire au XIXe siècle. Pour examiner ce que les dépouilles, les traces corporelles et les documents disponibles peuvent encore apprendre sur des morts anciennes. Son objet N n'est pas de substituer un diagnostic moderne à l'histoire, mais de confronter les hypothèses héritées des récits, des archives et des traditions à des observations matérielles. Maladies, traumatismes, malformations, empoisonnements, morts naturelles ou crimes dissimulés deviennent ainsi des questions d'enquête, à travers des individus célèbres et anonymes. L'ouvrage montre comment l'examen médico-anthropologique renouvelle les connaissances, tout en rappelant que les résultats scientifiques doivent être interprétés dans leur contexte culturel et historique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, faire du corps une archive historique à part entière. L'idée directrice du livre consiste à considérer les restes humains et les traces biologiques comme des sources historiques. Longtemps, l'enquête sur le passé s'est principalement appuyée sur les textes, les objets et les monuments. Charlier rappelle que le corps, même très ancien, peut conserver des informations sur les pathologies, les blessures, les pratiques funéraires, l'alimentation ou certaines interventions effectuées de son vivant. Cette archive est toutefois différente d'un document écrit. Elle ne livre pas une intention, un récit, ni une identité par elle-même. Elle fournit des indices matériels qui doivent être comparés aux données archéologiques et documentaires. Une lésion osseuse peut signaler un traumatisme, mais ne suffit pas toujours à établir les circonstances précises qui l'ont provoqué. Cette distinction protège contre une lecture sensationnaliste des analyses. Le livre met donc en valeur une histoire fondée sur le croisement des sources. Le savoir médical affine les questions posées aux vestiges, tandis que le contexte historique limite les interprétations abusives. Cette méthode permet de redonner une réalité physiologique à des personnes souvent réduites à leur statut de souverain, de victimes célèbres ou de figures légendaires. Deuxièmement, les méthodes médico-légales au service des décès anciens. Quand la science explore l'histoire, présente les apports des techniques de médecine légale et d'anthropologie à l'identification des maladies et des causes de mort. L'enjeu est de distinguer ce que les traces permettent d'affirmer de ce qui reste seulement probable. L'observation anatomique, l'étude des os, l'imagerie, l'analyse de tissus conservés ou l'examen de substances associées au corps peuvent orienter le diagnostic. Ces démarches servent notamment à réévaluer des alternatives fréquemment présentes dans les récits historiques, tels que empoisonnement ou mort naturelle, suicide ou homicide maquillé, tumeur ou malformation. Leur intérêt ne réside pas dans une promesse de certitude absolue. Les corps ont été altérés par le temps, l'environnement, les pratiques funéraires et les manipulations ultérieures. La conservation est inégale et certaines maladies ne laissent aucune marque identifiable. L'ouvrage souligne ainsi, par son principe même, la valeur d'un raisonnement indiciaire, un résultat, ne prend sens qu'en fonction de la qualité du prélèvement, de la chaîne de conservation, des observations convergentes et des connaissances disponibles. La science ne ferme pas automatiquement les dossiers du passé, mais elle rend les hypothèses plus contrôlables et les conclusions plus nuancées. Troisièmement, de la préhistoire au XIXe siècle, une histoire mondiale des pratiques corporelles. Le cadre chronologique très large du livre évite de réduire la médecine historique aux seules cours européennes ou aux grandes morts politiques. Des vestiges préhistoriques aux dépouilles plus récentes, l'enquête porte aussi sur les transformations de la relation des sociétés au corps. Les cas évoqués dans la présentation de l'ouvrage incluent notamment une amputation préhistorique, des momies égyptiennes, des crémations grecques, des trépanations romaines, des pratiques médiévales de traitement des morts et des tatouages maoris. Cette diversité importe parce que les traces observées ne sont jamais purement médicales. Une ouverture du crâne peut relever d'une intervention thérapeutique, d'un rite ou d'une pratique dont la signification dépend du contexte. De même, la crémation et la momification modifient fortement ce que l'anthropologue peut étudier. Le livre invite donc à ne pas appliquer uniformément des catégories cliniques contemporaines à des sociétés éloignées. Il montre que les techniques scientifiques doivent s'adapter aux matériaux et aux pratiques propres à chaque période. Cette perspective élargit l'enquête au lieu de chercher uniquement une cause de décès, elle permet d'interroger les soins, les gestes chirurgicaux, les représentations du corps et les traitements accordés aux défunts. Quatrièmement, réexaminer les personnages célèbres sans transformer la science en tribunal définitif. L'ouvrage s'appuie sur l'intérêt suscité par des figures connues, dont Richard Cœur de Lion, Agnès Sorel, Henri IV ou Robespierre, afin de montrer comment se construisent et se perpétuent les récits sur leur santé et leur mort. les personnages célèbres concentrent souvent des légendes politiques, familiales ou nationales. Une rumeur d'empoisonnement, par exemple, peut survivre parce qu'elle correspond à un imaginaire de cour ou à une lecture partisane des événements. L'enquête médico-anthropologique offre un moyen de revenir aux éléments vérifiables, mais elle ne doit pas être confondue avec une mise en scène de révélation définitive. Identifier des restes, établir une compatibilité anatomique ou reconnaître des signes pathologiques exige des comparaisons, des protocoles et une discussion critique. Le livre se distingue ainsi d'une simple galerie d'énigmes historiques. Il met en avant le travail qui transforme un indice matériel en conclusion raisonnable. Cette approche est particulièrement utile pour comprendre que la notoriété d'un défunt ne change pas les exigences de la preuve. Les sources doivent être examinées avec la même prudence pour un roi, une victime anonyme ou une dépouille attribuée tardivement à une personnalité. La célébrité attire l'attention, mais la méthode demeure le sujet essentiel. En dernier lieu, la transdisciplinarité comme condition d'une interprétation rigoureuse. Le livre défend une collaboration étroite entre disciplines souvent séparées dans les représentations communes. La médecine légale apporte des outils d'observation du corps et de ses altérations. L'anthropologie étudie les restes humains dans leurs dimensions biologiques et funéraires. L'archéologie restitue la position des objets, des sépultures et des stratigraphies. L'histoire, enfin, met les résultats en relation avec les archives, les institutions, les croyances et les conflits d'une époque. Cette articulation est nécessaire, car une donnée scientifique isolée peut être mal comprise. La présence d'une substance, une fracture ou une modification osseuse, elle n'acquiert une portée historique qu'une fois replacée dans les usages techniques et sociaux de son temps. Inversement, les archives peuvent être lacunaires, orientées ou silencieuses sur les réalités corporelles. La confrontation des approches permet de corriger ces angles morts réciproques. L'ouvrage propose donc moins une opposition entre sciences dures et sciences humaines qu'un modèle de coopération. Il rappelle que l'histoire est une pratique critique des preuves et que les analyses biologiques produisent elles aussi des interprétations, non de simples faits détachés de tout contexte. Cette leçon méthodologique dépasse largement les enquêtes sur les morts anciennes. En conclusion, quand la science explore l'histoire, elle s'adresse aux lecteurs curieux des rapports entre passé, corps et preuves, sans exiger de formation préalable en médecine ou en archéologie. Il intéressera particulièrement les amateurs d'histoire, de médecine légale, d'anthropologie funéraire et d'enquête sur les personnages historiques. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre visible le chemin qui relie une trace matérielle à une hypothèse historique. Le lecteur comprend pourquoi l'examen d'un os, d'une momie, d'une sépulture ou d'un document ne produit pas mécaniquement une vérité, mais alimente une interprétation soumise à la comparaison et au doute raisonné. Cette prudence est un apport pratique pour apprendre à distinguer découvertes scientifiques, indices solides et légendes persuasives, par rapport aux livres d'énigmes historiques ou aux récits centrés sur les morts célèbres. L'ouvrage se démarque par son ancrage médico-anthropologique et par l'ampleur de son parcours de la préhistoire au XIXe siècle. Il ne se limite pas aux affaires criminelles ni aux souverains, les pratiques corporelles et funéraires deviennent elles aussi des objets de connaissance. La spécificité du livre tient donc à son usage conjoint des outils de la médecine légale, de l'archéologie et des sciences humaines. Il offre une introduction accessible à une histoire où les défunts ne sont pas seulement des sujets de mémoire, mais des sources matérielles à interpréter avec méthode. Si vous souhaitez soutenir Philippe Charlier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.